Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Eh bien, vous savez, dans les petits moments entre nous, nous avons parlé des choses très importantes en termes de la vie chrétienne. Nous avons parlé de la prière et de l'importance de la prière, l'étude de la parole de Dieu, et nous avons parlé de la façon importante de faire une expérience réelle de la communion. Ce genre de choses fonctionne dans la famille de Dieu. Mais il y a une chose dont nous devons parler, c'est le témoignage envers ceux qui sont en dehors de la famille de Dieu. Maintenant, indirectement, si ces choses sont justes, nous allons avoir un impact sur d'autres personnes. Mais nous avons besoin de parler un peu plus de l'approche directe pour communiquer l'évangile du salut du Christ à d'autres. Regardons d'abord plusieurs versets pour nous aider à réfléchir à propos de ce sujet. Dans Jean 15, au verset 26, Jésus dit ceci. « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » La première chose que vous apprenez à partir de ce verset, c'est que le Saint-Esprit fait partie du processus de témoignage. Le Saint-Esprit est venu témoigner de la vérité au sujet du Christ. Et puis il est dit dans le verset suivant, le verset 27, « Et vous aussi, vous rendrez témoignage. » Il dit aux disciples, « Parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Le Saint-Esprit a ensuite été envoyé dans le monde et dans nos cœurs pour rendre témoignage au Christ. Et il partage donc ce témoignage à travers nous, n'est-ce pas? Et nous, qui avons été avec le Christ, nous sommes témoins de ce qu'il est et de ce qu'il peut faire dans une vie. Le ministère du témoignage nous est confié. Acte 1, verset 8 dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, n'est-ce pas? Donc, nous sommes tous appelés à communiquer l'évangile salvateur de Jésus-Christ. Maintenant, nous parlerons de ce que cela signifie et comment faire efficacement alors que nous partageons ensemble notre séance d'aujourd'hui. Alors, qui veut commencer par une question? Première question. John, faut-il être spécialement formé pour témoigner, ou n'importe qui peut le faire? Je dirais en réponse à cette question qu'il est bon que vous ayez une formation. Mais tous ceux qui connaissent Jésus-Christ peuvent le faire. Voilà la condition. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand j'étais pasteur stagiaire il y a quelques années dans une église où mon père était pasteur, un jour le secrétaire a couru jusqu'à la porte de l'église et dit « Il y a une bagarre dans le parking. Il y a une bagarre dans le parking. » Je m'ennuyais un peu ce jour-là, et j'ai donc décidé de sortir pour voir. Je suis allé à la porte, et là se trouvait un homme allongé par terre. Il était à environ 15 mètres de l'endroit où j'étais, à la porte de l'église. Un autre homme le tapait, lui donnait des coups de pied. En fait, il y avait deux hommes qui le battaient. Je me suis rendu compte que c'était grave. Alors je suis sorti par la porte en me disant « Je dois faire quelque chose. » Je leur ai dit « Eh les gars, arrêtez tout. Rien. » Je veux dire, ils ne m'ont même pas répondu. Et je pensais « Eh bien, peut-être qu'ils ne m'entendent pas. » Je criais un peu plus fort « Arrêtez. » Rien. Alors j'ai commencé à me diriger vers eux, et pendant mon trajet, je les entendais dire « Tue-le, tue-le !» Je me suis rendu compte que ce n'était pas un combat, mais un assassinat. Et là, j'ai crié « Arrêtez, arrêtez !» Mais ils ne faisaient pas attention à moi. Je suis finalement arrivé vers eux, et ils m'ont vu. Et à ce moment-là, le gars par terre n'était plus qu'un tas ensanglanté. Il était impossible de distinguer son visage. Il avait été frappé jusqu'à perdre connaissance. Un grand gars se tourna vers moi. Je peux dire, il était vraiment grand. Il faisait environ 1m95 et devait peser 120 kilos. J'ai appris après qu'il travaillait sur les quais et qu'il jouait au rugby. Il était vraiment très grand. Et, vous savez, je ne suis pas vraiment petit, mais je me disais souvent que je me battrais avec quelqu'un de plus petit que moi, qui se levait après une maladie. Donc je suis resté paralysé pendant une minute, vous voyez, parce qu'il se tournait vers moi pour me dire « Que voulez-vous ?» Et je répondis « Tu ferais mieux d'arrêter et de laisser ce gars tranquille. » Il recula son poing et je... ma réaction instinctive fut de reculer, n'est-ce pas? Et je reculais, et ils continuaient à venir vers moi. Je me suis dit que j'allais continuer à reculer car cela éloignait les deux types de l'homme allongé. Ils ont continué à me suivre, et j'ai continué à reculer. Je suis enfin arrivé à la porte de l'église. J'y suis entré. Je pensais qu'ils n'entreraient pas dans l'église et que j'allais trouver quelqu'un pour appeler la police. Ils m'ont quand même suivi à l'intérieur. Mon père est sorti et il a dit « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Et le gars a levé le poing contre mon père. Cela m'a irrité. Alors je lui ai dit « Appelle la police !» Eh bien, ils ont paniqué. Un gars a ramassé le blessé qui était inconscient et lui a fracassé la tête contre le mur. Puis, il l'a laissé tomber derrière un buisson. Ils ont couru pour regagner leur voiture. Je suis sorti pour noter le numéro de la plaque. Je me trouvais en bas de la rue avec un crayon pour noter la plaque d'immatriculation. La police est arrivée, et je lui ai donné toutes les informations que j'avais. Le blessé était encore en vie. Il a dit « Je ne veux pas porter plainte. Je ne veux pas les revoir. Je ne veux pas témoigner. Je ne veux pas faire quoi que ce soit. » Il était littéralement mort de peur. Les policiers sont partis, et ils ont pu arrêter ces vauriens. Ils les ont trouvés parce qu'ils étaient allés à leur appartement et ont trouvé des chaussures ensanglantées et plusieurs autres preuves contre eux. On m'a appelé à témoigner à la cour. Je n'oublierai jamais, tant que je vivrai, ce qui est arrivé, quand je suis arrivé à la cour. Je suis entré, j'ai levé la main, et on m'a dit « Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ?» Et j'ai dit oui. Le procureur s'est dirigé vers moi et m'a dit ceci « Révérend MacArthur, dites-nous ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu et ce que vous avez ressenti. » C'était exactement ce qu'il m'a demandé. Dans ces conditions, je suis devenu instantanément un témoin. Ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu et ce que j'ai ressenti faisait de moi un témoin valable, n'est-ce pas? Je veux dire, j'y étais. Et depuis cet événement, j'ai toujours pensé à 1 Jean 1, verset 1, où j'en dis « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, c'est ce que nous vous déclarons concernant la parole de vie. » Alors, qu'est-ce qu'un témoin? Quelqu'un qui a vu et entendu et ressenti la puissance de Jésus-Christ. Donc, en réponse à votre question, qui peut être un témoin? C'est quelqu'un qui a été avec Jésus. Voilà ce que nous avons vu dans Jean 15, n'est-ce pas? Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc, quand vous connaissez Jésus-Christ et quand vous l'avez vu agir et entendu, et l'avait touché dans votre vie, vous devenez le nom de celui qui peut parler de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Je veux dire, vous ne savez peut-être pas toutes les doctrines de la Bible, et vous ne pouvez pas connaître tous les détails de la théologie. Vous n'avez pas à portée de main tous les petits systèmes, tous les petits trucs, toutes les petites méthodes, toutes les brochures. Mais si vous avez marché avec Jésus-Christ, vous avez quelque chose à dire, et vous pouvez être un témoignage vivant de première main de la puissance de Jésus-Christ. Permettez-moi de vous dire quelque chose. C'est beaucoup plus important que de connaître une formule. Vous savez, je connaissais un prédicateur qui s'était levé devant son église pour dire « Je veux juste que vous sachiez que je suis pasteur de cette église, je pense depuis 10 ans, mais aujourd'hui j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. » Et à partir de là, il est devenu pour la première fois de sa vie un témoignage de la puissance de Jésus-Christ. Avant cela, il connaissait les faits et les méthodes. Il ne connaissait pas le Christ, et le pouvoir de l'énergie de Dieu n'était pas là. Alors, qui peut être un témoin? Tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui connaissent Jésus-Christ. Nous sommes mandatés. Je veux dire, Jésus n'a pas dit aux disciples « Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile, faites des disciples avec tout le monde, et chacun d'entre nous a pour mission de sortir et de communiquer le Christ, car nous avons vu et entendu et ressenti sa présence ». Je veux dire que c'est évidemment une chose terrible de différer à cela. Je veux dire, ne pas faire, ne pas dire au monde de ce que nous connaissons de Jésus-Christ. C'est les empêcher de connaître la plus grande chose qu'ils vont jamais entendre, n'est-ce pas? Donc, chacun de nous, en tant que chrétien, est un témoin. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose d'autre. Même si vous ne dites rien, si les gens savent que vous êtes chrétien, vous êtes un témoin. Vous ne serez peut-être pas très bon, mais vous en êtes un quand même. Parce que les gens que vous côtoyez lisent la signification et les valeurs du Christ par votre façon de vivre. Et si vous ne dites rien, Christ n'est donc pas très précieux à vos yeux. Christ n'est pas si important pour vous. Je veux dire, si vous êtes chrétien et vous le cachez pendant des années, cela ne vaut certainement pas grand-chose, ou bien vous faites partie d'une certaine société secrète réservée uniquement aux initiés. Donc nous sommes témoins. Il ne dit pas « j'aimerais que vous le soyez ». Il dit « vous êtes ». Soyez sûr d'être un témoin efficace. Il faut bien sûr être chrétien pour être un témoin efficace. Cela dit, permettez-moi de dire encore autre chose. L'Évangile est si puissant que même dans la bouche de ce prédicateur que j'ai mentionné qui n'était pas chrétien, l'Évangile a pu passer, malgré son manque d'expérience. Je veux dire que Dieu a utilisé l'âne de Balaam, n'est-ce pas? Même un âne. Donc, il y a un sens dans lequel l'Évangile est si puissant qu'il transcende le moyen de transport. Mais pour être un témoin véritable et efficace, vous devez connaître Jésus-Christ. Et c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire, au moins pour commencer. Une autre question? John, j'ai entendu une variété de différentes définitions concernant le témoignage. Et comment est-ce que la Bible définit le fait d'être témoin? Eh bien, je pense que nous avons déjà touché un peu cela, et le témoignage doit être défini de cette façon. Une personne communique le témoignage de quelque chose qu'elle a vécu. Je veux dire, quand vous avez une affaire judiciaire, on ne veut pas de témoins de seconde main, n'est-ce pas? On veut, quel est le terme utilisé? On veut des témoins oculaires, n'est-ce pas? Je veux dire, les magistrats veulent quelqu'un qui était là. Ils ne veulent pas une information transmise par le biais de plusieurs sources. Permettez-moi de vous donner un point de vue qui vous aidera, d'accord? Le monde est comme le jury. Christ est en procès devant le monde, n'est-ce pas? Je veux dire, le monde est en train de décider au sujet de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est l'avocat de la défense. Le Saint-Esprit a pris le cas du Christ dans le monde, et sa tâche est de convaincre le monde que le Christ est celui qu'il dit être. Le Saint-Esprit appelle des témoins dans la salle d'audience. C'est nous, vous voyez? Donc, nous devenons témoins de la défense de Jésus-Christ devant le regard du monde. C'est un grand concept, n'est-ce pas? Nous sommes appelés dans la salle d'audience, pour ainsi dire, et comme nous vivons dans le monde, nous sommes dans la salle d'audience et Jésus-Christ est jugé. Maintenant, notre rôle de témoin est important. Je veux dire que c'est une chose sérieuse. Si vous, par exemple, êtes appelé à la Cour supérieure, ou à la Cour d'État, ou à la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, et quelqu'un dit « Voulez-vous défendre Jésus-Christ? Voudriez-vous? » Bien sûr, si vous étiez réellement là devant le tribunal. Je veux dire, j'ai souvent pensé que si j'étais présent quand il était devant Caïphe, je lui aurais dit des choses. Si j'étais là quand il était devant Anne, je lui aurais dit des choses. Je n'aurais pas laissé ces gens partir en portant de faux jugements sur le Christ. Ils méritaient mieux que cela. Ils ont menti à propos de lui, etc. Écoutez, le monde prépare un jugement et tout l'environnement dans lequel nous existons est une salle d'audience. L'Esprit de Dieu, l'avocat de la défense, nous appelle à donner notre témoignage. Les gens auront à avoir une conclusion au sujet de Jésus-Christ, sur la base de notre témoignage, non? Alors que nous commençons cette étude sur comment témoigner, nous verrons que le Saint-Esprit nous appelle à être un témoin de Christ. Maintenant, posons-nous cette question. Quel est l'élément qui fait en sorte qu'une personne soit motivée à témoigner? Je dois être honnête avec vous, dès le début. C'est un sacrifice. Il y a un prix à payer, parce que lorsque vous proclamez le nom de Jésus-Christ, il y aura une certaine agitation, n'est-ce pas? Je veux dire, vous ne pouvez pas faire face à un monde sans Christ, sans Dieu, et ne pas vous attendre à une réaction. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'être sur un campus universitaire, un campus d'environ 25 ou 26 000 étudiants. On m'a demandé de parler du christianisme et de la culture lors d'un forum ouvert. Plusieurs milliers d'étudiants étaient rassemblés, et je devais parler du christianisme et de la culture. Qu'allais-je pouvoir dire? Je pouvais épuiser tout ce que je savais sur le christianisme et la culture dans une dizaine de minutes. Et puis j'ai décidé, puisque le nombre prédominant d'étudiants ne connaissait pas Jésus-Christ, que je parlerais de la divinité de Jésus-Christ et comment connaître Dieu par lui. Et j'ai donc parlé 10 minutes sur le christianisme et la culture et 40 minutes sur la divinité de Jésus-Christ. Et j'ai proclamé le salut par Jésus-Christ. Vous auriez pu entendre tomber une épingle. Je sais que l'Esprit de Dieu contrôle les choses, car c'est vraiment l'Évangile. Il y a ces moments, vous savez, quand vous prêchez, et vous vous sentez que vous allez de l'avant, mais que c'est difficile, car il y a de la résistance. Et puis, il y a ces moments où vous avez l'impression de voler. Et je volais. Je veux dire, j'étais libre. Les paroles venaient facilement, car la puissance de Dieu était là. Quand j'ai terminé, il est arrivé quelque chose d'incroyable. Un homme se dirigea vers moi et m'a dit « Je dois connaître Jésus-Christ, et j'ai eu le privilège de le conduire à Christ. » Un autre, que j'ai eu le privilège de voir dans mon bureau quelques jours plus tard, est venu à Christ et est allé au séminaire. Dieu a vraiment touché des vies. Mais ensuite, ils ont chassé tous les chrétiens du campus. Ils ont fermé la plateforme de la parole libre. Ils ont renvoyé la table des livres chrétiens hors du campus. Et la prochaine fois que je parlais sur un autre campus, l'ensemble du groupe d'étudiants qui avait protesté sur le premier campus est venu et a encerclé le podium où je parlais, pour crier pendant tout le message. Ils ont appelé notre maison au milieu de la nuit, en laissant des messages téléphoniques obscènes. Ils ont menacé la famille, menacé ma femme, et ma première réaction était « Je dois cesser de faire cela, vous savez, car cela crée des problèmes. » Ma deuxième réaction était « Je pense avoir fait une vague. Je pense avoir créé une brèche dans le royaume des ténèbres. Je commençais à réaliser ce que Pierre avait dit quand il parlait de la persécution pour la justice. L'esprit de la grâce et de gloire repose sur vous. » Il y avait un énorme sentiment d'identification. Je me sentais quasi apostolique, vous savez, car je vivais ce que certains de ces gens ont traversé. Je crois vraiment que lorsque vous endossez cette responsabilité de vous tenir devant le monde et témoigner au nom de Jésus-Christ, vous devez réaliser que vous vous confrontez à un monde hostile. Et si l'Évangile est vraiment prêché, il va réagir. Maintenant, je peux aussi dire ceci. Si vous parlez que d'amour et de belles petites choses, et vous parlez de Dieu comme un gentil bonhomme sans, bien sûr, parler du péché, ni du fait qu'ils vivent en violation avec Dieu, ils ne vont peut-être pas réagir négativement. Mais ce n'est pas le vrai Évangile non plus, n'est-ce pas? Vous avez à proclamer la vérité du péché et de la justice, et la vérité sur Jésus-Christ. Et quand vous faites cela, il y a un sacrifice à faire. Donc, vous devez décider dans votre vie si vous allez fermer votre bouche et être comme certaines personnes qui, comme la rivière Arctique, sont gelées de la bouche. Vous allez juste vous taire et dire « Ma propre timidité personnelle, ma réputation, tout ce qui a plus de valeur pour moi que de témoigner pour le Christ. » Vous devez prendre une décision. Ou vous allez dire « Hey, je ne me soucie vraiment pas de ce qui peut m'arriver à moi. Je suis consommable, n'est-ce pas? Je veux dire, si je meurs, Paul dit, en vous prêchant l'Évangile, si je suis offert en sacrifice à cause de votre foi, je m'en réjouis. Je veux dire, si je meurs, en vous sauvant. Quelle mort douce! Et c'est de ce genre de sacrifice que nous parlons. Je pense toujours à John Patton, qui est allé aux Nouvelles Îles Hébrides pour être missionnaire. Elles étaient habitées par des cannibales. C'était une tâche difficile. Vous savez ce que j'aurais dit? J'aurais dit, « Seigneur, regarde, ne m'envoie pas là-bas. Ils vont me manger, tu le sais, et ce sera du gaspillage. Je suis diplômé du séminaire, n'est-ce pas? Envoie plutôt un homme qui a abandonné ses études, et s'il le mange, qui le saura? Peut-être qu'il n'aurait jamais réussi sa vie de toute façon. Pourquoi envoyer un bon comme moi? » Mais Patton est allé avec sa femme, et on les a déposés sur l'île. Ils sont montés sur le rivage et ils ont construit un petit appentis sur la rive. Comment voulez-vous atteindre les indigènes comme cela? Ils sont cannibales. Ils ne parlent même pas votre langue. Je veux dire, que faites-vous? Vous ne mettez pas un signe dans le sable qui dit « L'étude biblique commencera samedi. Amenez vos enfants. Que faites-vous? » Eh bien, vous priez beaucoup, non? Et nuit après nuit, ils sont restés dans ce petit appentis et ont prié. Et après quelques mois, sa femme a donné naissance à un bébé. Et le bébé est mort. Quelques jours plus tard, sa femme est morte. Et Patton a dit qu'il a enterré leur corps et dormait sur les tombes pour empêcher les indigènes de les déterrer et de les manger. Maintenant, il est tout seul. C'est bientôt la fin, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est quand vous arrivez au bout. La dernière ligne est dessinée. Est-ce que vous restez ou vous partez? Lui est resté. Et le miracle, c'est qu'il y est resté 35 ans. Il a dit à la fin de ses 35 ans, « Je ne connais pas un seul natif sur ces îles qui n'a pas fait au moins une profession de foi en Jésus-Christ. » Il a continué. « Quand je suis arrivé ici, j'ai entendu le cri des cannibales. En partant, j'entends la sonnerie des cloches des églises. N'est-ce pas incroyable? Mais, vous voyez, c'est ce qui peut arriver si vous êtes prêt à faire le sacrifice. Tout le monde ne sera pas un John Patton, mais tout le monde peut faire la chose que Dieu l'a appelé à faire. Mais il faut être prêt à payer le prix. Soyez des témoins dans le monde. Chacun peut être un témoin, mais vous devez réaliser qu'il y a un prix à payer. Si vous êtes chrétien, et vous vous êtes vraiment donné à Christ, vous êtes prêt à payer ce prix. Ce n'est pas nécessairement un contrat d'une courte durée, mais à partir de maintenant, je vais le faire. C'est un combat de tous les jours. Soyez prêt à parler pour Christ. Une autre question? John, avec tout le sacrifice et l'engagement dont vous parlez et le témoignage, et même la frustration quand les gens ne répondent pas. Pourquoi quelqu'un ne désirerait-il pas simplement poursuivre Dieu en lisant sa parole, plutôt que de témoigner lorsque Dieu promet d'amener les hommes à lui de toute façon? Oui, en d'autres termes, il y a tellement de chagrin impliqué dans le fait de témoigner, ne serait-il pas préférable tout simplement de se retirer et de communier avec Dieu? Laissez Dieu prendre soin du salut par sa souveraineté. Eh bien, encore une fois, nous reprenons quelque chose que nous avons évoqué lors d'une de nos discussions ensemble. Ce n'est pas à vous de comprendre ce genre de choses. Vous n'allez pas dire « Tu sais, Dieu, tu as un bon plan, mais j'ai réfléchi à ce sujet et je pense que j'en ai un meilleur. Je voudrais te le suggérer. » Parce que vous faites ce que l'homme veut toujours faire. Vous assumez que son esprit est ultime. Et si je ne peux pas comprendre quelque chose, cela ne peut certainement pas être raisonnable. Mais la Bible dit pourquoi vous devez être témoin. Dieu vous le dit, cela suffit. Je veux dire, parfois vous avez un petit enfant et vous dites « Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. » Et vous recevez cette réponse standard. « Pourquoi ? Pourquoi, papa ?» Et vous savez que vous ne pouvez pas expliquer pourquoi, parce qu'il ne comprendrait pas pourquoi. Donc vous dites « Parce que je te le dis. » Fin de la discussion. Nous sommes comme cela aussi. Nous sommes de petits enfants en termes de comparaison avec l'Esprit infini de Dieu. Dieu dit de témoigner. Et nous disons « Eh, j'ai consulté toutes les données disponibles. Pourquoi ?» Et il dit « Ce n'est pas à toi de décider. Exécute, fais-le. » Nous avons reçu un ordre. Vous savez, notre Seigneur a dit dans Matthieu 28, et nous l'avons mentionné tout à l'heure, « Allez dans le monde et faites des disciples, et ça suffit pour moi. » Une fois, quelqu'un a dit à Spurgeon, « Vous savez, monsieur Spurgeon, vous croyez dans la doctrine de l'élection. Vous croyez que certaines personnes sont élues pour le salut. Pourquoi n'allez-vous pas prêcher aux élus ?» Il a répondu, « Eh bien, si vous faisiez le tour et tiriez sur leurs étiquettes, afin de savoir si elles ont un « et » gravé sur le dos, je le ferai. » Et donc, il ne le sait pas. Et sa responsabilité est de prêcher à tout le monde. Dieu s'occupera de sa part. Il est de notre responsabilité de prêcher l'Évangile à toute créature. Vous savez, si vous suivez ce genre de logique, vous pourriez dire, si les gens qui n'entendent pas l'Évangile, car vous entendez parfois que les gens disent, s'ils n'entendent pas l'Évangile, ils ne sont pas perdus, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'entendre le message. La meilleure chose, donc, est de ne jamais leur dire. Mais cela est contraire au commandement aussi, non? Le fait qu'on nous dit d'aller prêcher à toute créature signifie que ceux qui n'ont pas entendu parler sont perdus. Donc, notre responsabilité est d'aller là-bas en étant obéissant et en prêchant l'Évangile, sans essayer d'entrer dans toutes sortes d'arguments rationnels à ce sujet. Maintenant, permettez-moi de parler d'un autre élément. Je crois que nous avons reçu l'ordre d'aller là-bas tout de suite, et de le faire, et nous sommes responsables de le faire, car ce n'est pas une question de connaissance théologique. En d'autres termes, je pense que nous sommes tous responsables. Quelqu'un pourrait dire « Eh bien, je ne suis pas formé, je ne sais pas témoigner, je dois attendre jusqu'à ce que je termine ma formation. Je dois être formé, de telle sorte que je puisse répondre à tous ces arguments et toutes ces questions, et ainsi de suite. » Mais je pense que nous sommes tous témoins, parce que nous avons reçu l'ordre, et parce que ce n'est pas une question de connaissance théologique. C'est d'abord et avant tout une question de ce que nous avons vu et entendu et ressenti, et notre témoignage commence à ce moment-là. Et je connais très peu de choses, n'est-ce pas? Je sais que Jésus m'a sauvé, et cela suffit. Vous savez, nous avons tout le temps des baptêmes dans notre Église. Vous êtes passés par là. Je veux dire, la puissance de ces témoignages est écrasante. Et personne n'est là pour mener une grande discussion au sujet de la doctrine d'Omusio, vous le savez, l'être divin, ou un distinctif, sublapsarianisme, ou l'infralapsarianisme, et un labrador retriever. Vous savez, personne ne donne de grands traités théologiques dans le langage du séminaire. Ce qu'ils font, c'est de dire que j'étais un toxicomane, où j'étais, je n'oublierai jamais le gars qui est venu ici une nuit, et il était vraiment difficile à comprendre. Vous savez, son vocabulaire n'était pas très poli. Et je suis sûr que quelques-uns des saints les plus âgés ont eu un petit problème avec la façon dont il parlait. Il a dit « Je suis le chef des Hells Angels à Houston. La dernière fois que je suis rentré dans une église, je veux que vous sachiez que nous sommes montés sur nos motos pour aller sur le devant de l'église. et nous avons attaché le pasteur, qui en était au milieu de son sermon, avec une corde, et nous l'avons traîné dans l'allée centrale, fait descendre les marches, tiré dans la rue jusqu'en bas. Et j'ai fini en prison pour un assassinat. Ce n'était pas du premier degré lorsque je suis vite sorti de la prison. Je suis ici pour vous dire que, pendant les dernières semaines de mon temps en prison, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, et je suis ici parce que je veux l'adorer. Maintenant, pour ce genre de témoignage, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de théologie pour gérer cela. C'est puissant. Et les gens sont restés assis en disant « Waouh, Jésus-Christ peut-il transformer quelqu'un comme ça ?» Ou vous savez, quelqu'un qui vient en disant « Vous savez, pendant des années et des années, j'étais un homosexuel ou autre chose, et Christ a changé ma vie. » Ou « Pendant des années et des années, j'étais tout simplement un bon gars ordinaire, mais je cherchais un sens à ma vie. Je voulais m'épanouir, et Christ m'a donné la paix et la joie. » Donc, vous voyez, voilà où le témoin commence, et vous ne devez jamais faire marche arrière. Vous devez réaliser que nous sommes témoins, parce que c'est un ordre de Dieu, et parce que nous sommes aptes à le faire. Nous sommes vraiment aptes à le faire si le Christ a changé notre vie, et ça ira mieux petit à petit, et nous serons mieux en mesure de répondre à des questions plus tard. Mais nous avons, dès notre conversion, le pouvoir d'une vie transformée. Et c'est très, très important. Une autre question ? Eh bien, il est évident que nous sommes censés témoigner. Mais quels sont les éléments qui rendent un témoignage efficace ? C'est une question importante, parce que certains d'entre nous ont essayé de témoigner. Et nous avons évalué cette occasion, et nous disons, il doit y avoir une meilleure façon de le faire. Je veux dire, il doit y avoir une autre approche. La personne m'a arrêté alors que je n'étais qu'à la première étape. Qu'avons-nous vraiment besoin de comprendre au sujet du témoignage ? Très bien. Permettez-moi de vous donner une vue d'ensemble. Tout d'abord, le témoignage de l'Église est basique, en fait. Par exemple, vous allez dans une église. La réputation de cette église dans la communauté crée vraiment la base pour savoir si quelqu'un va écouter ce que vous avez à dire ou non. Par exemple, disons que vous assistez à une église où il y a des problèmes. L'église est divisée. Le pasteur s'est enfui avec la secrétaire. Elle est chaotique. Le journal en parle. Tout le monde le sait. Et vous allez là-bas. Vous êtes de cette église. Les gens de votre école ou de votre travail ou de votre quartier le savent et vous dites « Je veux vous dire que le Seigneur est merveilleux, que nous vivons tous pour le Seigneur et je veux que vous connaissiez Jésus-Christ. » Et ils répondent « Vous allez à cette église là-bas ?» Où le pasteur vient de détourner tout l'argent ? Fin du témoignage, n'est-ce pas ? Je veux dire que c'est l'Église qui établit les bases pour rendre un témoignage individuel significatif et crédible. Je me souviens d'un avocat qui est venu vers moi un dimanche et il m'a dit « Je viens d'avoir une expérience affreuse. » Je répondis « Eh bien, quelle était-elle ? » Eh bien, j'étais au tribunal cette semaine. Je travaillais avec un autre avocat et je l'ai invité à l'Église. Et il m'a dit « Dans quelle Église allez-vous ? » J'ai dit que j'allais à Grace Community Church. Et John MacArthur est le pasteur. Il a dit, « Vous allez à cette église ?»« Oui, je voudrais que vous veniez avec moi. » Il a répondu, « Vous plaisantez. Je n'irai jamais à cette église. L'avocat le plus tordu dans cette ville va dans cette église. » Ensuite, cet avocat m'a dit, « Eh bien, cela m'a brisé le cœur. » Donc, je me suis levé lors du culte du matin et j'ai raconté cette histoire. Et j'ai dit, « Je ne sais pas lequel d'entre vous est l'avocat tordu. Mais, je voudrais que vous nettoyiez votre vie, parce que vous rendez les choses très difficiles pour les autres qui désirent témoigner. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous savez, vous êtes là, et vous avez à défendre le christianisme auquel vous appartenez. C'est difficile parfois, n'est-ce pas ? Les journaux aiment parler, vous savez, des mauvaises choses qui arrivent aux chrétiens, et les médias aiment ce genre de choses. Nous devons donc vivre cette vie, nous devons être ce sel et cette lumière. » Alors, en réponse à cette question, on peut dire qu'une partie de votre efficacité dans le témoignage dépend des autres, c'est vrai, et du fondement de la crédibilité qu'ils ont établie. Êtes-vous déjà allé témoigner à quelqu'un, partager Jésus-Christ avec quelqu'un, et ce quelqu'un a déjà rencontré tant de chers et bons chrétiens solides que vous êtes juste le toboggan graissé? Je veux dire, c'est facile, tout a été préparé. Le témoignage de la communauté est très important. Et encore, nous revenons à Jean 13, où Jésus a dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Pierre exhorte, « Ayez un comportement honnête parmi les païens. » Quand vous lisez les lettres de Paul à Timothée et à Tite, il dit comment l'Église devrait être organisée. Quand vous commencez à choisir les dirigeants, choisissez les dirigeants dont la vie est irréprochable devant le monde, parce que si le monde peut abattre vos dirigeants, il effacera tout votre mouvement et vous perdrez votre témoignage. Donc, dans un sens très réel, nous sommes dépendants les uns des autres. Et ce que vous faites dans votre vie peut affecter mon témoignage. Vous rencontrez quelqu'un, vous essayez de partager Christ. Ah, j'ai rencontré un chrétien, et il est comme ci ou comme cela, alors je ne suis pas intéressé. Voilà donc un élément très important. Maintenant, permettez-moi de parler un peu d'autre chose. Vous allez du témoignage de la communauté au témoignage individuel. Il est essentiel que votre vie soit droite. L'endroit où vous aurez le plus d'impact dans votre témoignage est l'environnement dans lequel vous vivez. Je veux dire, voilà où vous allez couler ou nager, n'est-ce pas? Nous disons, « Oh, c'est si difficile de gagner sa famille à Christ. » C'est vrai parce que si la famille ne voit pas, jour après jour, les attributs de Jésus-Christ dans votre vie, cela va rendre la chose difficile. Et nous parlons du point de vue humain. Nous savons que Dieu est à l'œuvre. Néanmoins, de notre côté, il y a une vie pure qui pose les fondations. 1 Pierre 2, verset 15 dit « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Vous savez, les gens veulent calomnier le christianisme. Ils veulent l'arrêter. Ils veulent frapper. Mais c'est votre vie juste, votre vie vertueuse qui ferme la bouche des critiques. Nous aspirons tous à un christianisme qui est irréprochable, non? Je veux dire, nous aimerions montrer au monde une vie chrétienne exemplaire. Pas la perfection, mais l'honnêteté, l'intégrité, qui dit « Bien sûr, j'échoue, mais je demande au Seigneur et il m'aide à gérer. » Voilà vraiment ce que nous voulons en tant que communauté. Et c'est très, très important. Maintenant, juste une autre pensée à ce sujet. Vous êtes témoins maintenant individuellement, et nous avons parlé de la vie pure de la communauté. Et quand alors vous vous déplacez, en donnant votre témoignage de base, je pense qu'il est essentiel que vous articuliez votre témoignage. En d'autres termes, que les gens entendent parler de la façon dont Christ a changé votre vie, parce que la plupart des gens qui viennent à l'Évangile, qui viennent à Christ, viennent parce qu'ils ressentent un besoin. Ils se sentent incomplets, ils se sentent seuls, ils se sentent déprimés, ils se sentent insatisfaits. Voilà essentiellement où les hommes se trouvent. Ils sont à la recherche du plaisir et ils ne le trouvent pas. Ils sont en quête d'amour et ils ne le trouvent pas. Vous pensez toujours à Roquentin, le personnage principal dans le livre de Sartre. Sartre a écrit un livre sur la vie. Il l'a appelé « Nausée », une vraie mauvaise approche de la vie. Et le personnage principal dit « Je pensais que je pouvais trouver la vie dans le plaisir, dans les sensations fortes. Alors j'ai essayé toutes les sensations, toutes les sensations. Et je trouve que, si je n'avais pas de sens, alors je ne pourrais pas apporter de sens à mon plaisir. J'ai donc décidé que le plaisir devait être au service de l'humanité. » Il a dit « J'ai trouvé facile d'aimer l'humanité. Ce sont des gens que je ne pouvais pas supporter, n'est-ce pas ? En termes généraux, ils pouvaient être très philosophiquement condescendants, mais en termes des relations réelles, ils ne pouvaient pas les supporter. Donc j'ai décidé qu'il doit y avoir un amour intime avec une personne du sexe opposé. Et il a dit « Tout ce que j'ai touché est devenu luxure et s'est détruit. » Et donc à la fin il dit « J'ai décidé de prendre ma vie pour supprimer une vie plus que superflue. » Eh bien, tout le monde n'est pas aussi philosophe que Sartre sur la vie. Mais fondamentalement, les gens sont à la recherche d'épanouissement. Ils recherchent beaucoup de choses dans la catégorie de l'accomplissement. Ils sont à la recherche de la liberté, de la culpabilité. Croyez-moi, la culpabilité est très difficile à traiter. Vous vous demandez pourquoi les institutions mentales sont remplies de gens. Je pense que c'est avant tout dû à la culpabilité. Ils ne peuvent pas se débarrasser de l'anxiété construite sur eux par la culpabilité. Ensuite, il y a toute cette histoire de vivre sans but dans la vie. Edna Saint-Vincent Mallet dit « La vie doit continuer, je ne sais pas pourquoi. » Et Arthur Miller dit « La vie est détériorée par des kilomètres que nous mettons sur notre Volkswagen. Je veux dire qu'il n'y a rien, aucun but. » Et puis, il y a ces gens qui sont littéralement victimes de leur propre passion. Et ils ne peuvent pas aller au-delà. Ils ne peuvent tout simplement pas aller au-delà. Et voici ce non-sens de la vie. Quand vous témoignez à quelqu'un et vous venez à lui et vous dites « Eh, la paix dans la vie, le but dans la vie, c'est en Jésus-Christ. » C'est la première chose à dire. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter là. Je veux dire, cela ne suffit pas. Je pense que ce jeune homme riche est venu à Jésus parce qu'il a ressenti un besoin. Il vient à Jésus. Il court même. Et si un homme court, il a quelques problèmes. Il est mal. Et il tombe sur ses genoux. Et il lève la tête pour dire « Ah, 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 en haletant. Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? C'était ressentir un besoin, non ? Mais le Seigneur n'a pas dit « Signe sur la ligne pointillée, et tu y es ». Il a dit « Croyez ». Le Seigneur l'a frappé avec quelque chose qui était absolument incroyable en disant « Gardez tous les commandements ». Gardez tous les commandements. Quels commandements ? Les commandements de Dieu. Rappelez-vous, il a énuméré certains d'entre eux dans Matthieu. Que faisait le Seigneur ? Le Seigneur l'emmenait à l'étape suivante dans l'évangélisation. Il faut que ce soit au-delà d'un ressentiment, d'un besoin. L'interlocuteur doit se rendre compte qu'il vit dans le péché et la rébellion contre Dieu. Et parfois, c'est la chose la plus difficile de le dire à quelqu'un. Vous pouvez trouver une personne cherchant un but et elle peut être tout excitée à ce sujet. Le sens, le but, la valeur de la vie, la réalisation, le potentiel. Puis vous dites, mais attendez, vous voyez le vrai problème avec vous ? C'est la raison pour laquelle vous ne connaissez pas ces choses. C'est parce que vous vivez dans la rébellion envers Dieu qui donne ces choses, et vous ne vous en sortirez jamais si vous ne venez pas à bout de cette rébellion. Vous vivez en violation de la loi de Dieu. Vous êtes un pécheur. Vous avez brisé les commandements de Dieu. Et puis vous pouvez nommer ces commandements. Et vous avez besoin de les amener au point où elle admet ces choses. Maintenant, Jésus a donné tous ses commandements au jeune homme riche. Et qu'a dit ce dernier ? Toutes ces choses, je les possède. Qu'est-ce qui me manque ? Il est impossible d'amener cet homme à la conversion, car il n'a pas admis qu'il était un pécheur. Je veux dire, il n'admettait pas qu'il n'était pas en accord avec Dieu. Par conséquent, tout ce qu'il cherchait était un placebo. Tout ce qu'il recherchait était une panacée, un soulagement temporaire des symptômes, et il ne voulait pas admettre qu'il y avait un problème plus profond. Il faut donc amener les gens au point où ils reconnaissent vraiment qu'ils sont pécheurs. Et c'est parfois difficile à faire. Et puis, vous les amenez un peu plus loin, je pense, et vous les enseignez pour qu'ils reconnaissent qu'ils doivent soumettre leur vie au contrôle de Dieu. Rappelez-vous du jeune homme riche. Alors Jésus lui dit, « Je veux que tu fasses quelque chose. Vends tout ce que tu as. Donne tout aux pauvres et suis-moi. » Et la Bible dit qu'il était divisé. Il voulait être le maître de sa vie. Bien sûr, il voulait la vie éternelle. Il voulait la paix. Il voulait la liberté sur l'anxiété. Il voulait tout ça. Mais il ne voulait pas le faire s'il devait admettre qu'il était un pécheur, parce qu'il avait désespérément besoin, pour préserver son propre sens, de l'estime de soi. Et d'autre part, il n'y avait pas moyen qu'il soumît sa vie à la seigneurie de quelqu'un d'autre. Ce sont les conditions nécessaires pour amener les gens à Christ. Ainsi, la connaissance de votre témoignage, alors qu'elle est mélangée avec les Écritures, signifie que vous confrontez les gens avec la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que vous aurez à traiter avec le péché et la seigneurie de Jésus-Christ. Maintenant, il y a une autre chose que vous devez faire selon les éléments d'un témoignage efficace, et c'est la suivante. Vous devez reconnaître que vous êtes dépendant de la puissance de l'Esprit de Dieu. Vous dites, « Eh bien, pourquoi est-ce important ?» Parce que cela vous empêchera de manipuler les gens. C'est très facile parfois de toucher quelqu'un qui est émotionnellement agité et vraiment dans un besoin désespéré, de sorte que vous réussissez à le manipuler, à faire quelque chose. Et vous voulez être sûr que vous ne faites pas cela. Donc vous dépendez de l'Esprit de Dieu. Et personne n'a jamais été sauvé par votre intelligence, ou la mienne, ou de quelqu'un d'autre. Vous ne dupez pas les gens à devenir chrétiens. C'est un miracle, n'est-ce pas ? Et ce miracle est un miracle surnaturel. Et donc nous sommes dépendants de l'Esprit de Dieu. Vous savez, j'aime cette histoire à propos de Lydie dans Acte 16. Je l'appelle Lydie, la femme libérée. La Bible dit que Paul est venu annoncer l'Évangile. Et j'aime cela. Et le Seigneur lui ouvre le cœur. N'est-ce pas bon ? Le Seigneur lui ouvre le cœur. Vous savez, quelqu'un m'a dit il y a un an, « Êtes-vous en détresse quand les gens ne répondent pas à l'Évangile ? Quand ils ne viennent pas pour recevoir Jésus-Christ ?» Et je dis, « Eh bien, mon cœur est triste. Mais Dieu ne m'a jamais appelé à sauver les gens. Il m'a seulement appelé à leur prêcher l'Évangile. Le salut est son domaine. Donc je n'ai pas beaucoup d'anxiété à ce sujet. Si je suis fidèle en prêchant clairement l'Évangile, c'est tout ce que je peux faire. Je ne vais pas les manipuler à faire quelque chose qu'ils font émotionnellement et qui n'est pas authentique. Et je crois surtout que je ne suis pas la personne qui sauve les gens. Vous savez, j'étais assis dans une église et je me préparais à prêcher dans le Wisconsin. Le pasteur est un cher ami. Il s'est penché vers moi et a dit, « Tu vois cet homme dans la première rangée ?» J'ai répondu oui. Il dit, « C'est un de mes convertis. » Je dis, « Vraiment ?» Il continue, « Oui, le mien, pas celui du Seigneur. » Je dis, « Le tien, pas celui du Seigneur ?» Il marquait vraiment un point, n'est-ce pas ? Ce fut un homme que j'avais encouragé à s'impliquer avec le Christ, mais le Seigneur n'avait jamais changé son cœur. Parfois, cela peut nous arriver. Vraiment, c'est bon quand vous le reconnaissez, parce que vous savez que vous devez dépendre de l'Esprit de Dieu. Qui nous convainc de péché, de justice et de jugement ? Jean 16, versets 7 à 11. C'est l'Esprit, Jésus dit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, dès le début, vous dépendez de la parole de Dieu qui vient dans votre vie à travers l'Esprit de Dieu, qui vient à travers de la parole qui dépend de l'Esprit de Dieu pour convaincre. Donc, tout cela, c'est de l'Esprit. Et puis il dit, « Nous sommes nés de l'Esprit, Jean 3. » Le deuxième chapitre de 1 Corinthiens nous affirme cela. Permettez-moi de vous le mentionner, d'attirer votre attention sur le fait que c'est un passage très familier, mais qui nous dit en 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 9, « Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Vous savez ce que cela dit. Les hommes, avec leur propre intelligence, ne peuvent pas comprendre ce que Dieu a pour eux. Ainsi, la personne non sauvée ne peut pas comprendre le salut, avec toute sa bénédiction et ses bénéfices. Il ne le peut pas. Il dit « les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues ». Cela signifie qu'il n'est pas disponible objectivement. Il n'est pas là où vous pouvez le saisir. Et puis il dit « qu'ils ne sont point montés au cœur ». Il n'est pas disponible subjectivement ou rationnellement. Donc, il ne peut pas le savoir en dehors de lui-même. Il ne peut pas le savoir en dedans de lui-même. Comment va-t-il le savoir ? Dieu nous le révèle par l'Esprit. Verset 10. Ainsi, lorsque vous témoignez à quelqu'un, il faut vraiment regarder l'Esprit de Dieu faire son œuvre. C'est une merveilleuse confiance, n'est-ce pas ? C'est également une chose merveilleuse de faire partie de cela, à savoir que l'Esprit de Dieu nous utilisera quand nous sommes impliqués. Et cela nous amène à notre responsabilité. Nous parlons de la responsabilité du Saint-Esprit. Et quelle est notre responsabilité ? Maintenant, parlons de la méthode actuelle. Comment pouvons-nous faire ? Permettez-moi de voir si je peux cristalliser certaines des choses que nous avons partagées. Tout d'abord, je tiens à dire que vous devrez commencer par votre témoignage personnel. Comment le Christ est venu dans votre vie ? Afin que votre vis-à-vis ne voit pas cela comme une sorte de chose très bizarre, que vous êtes allé dans un coin très clandestin d'une cathédrale et Dieu a fait quelque chose de mystérieux pour vous. Vous savez comment c'est. Vous entendez les gens qui donnent leur témoignage, tout le temps, en disant « Eh bien, l'autre jour, je conduisais sur l'autoroute et Dieu m'a parlé et sauvé. » Ou « J'étais assis dans mon salon et le Seigneur m'a convaincu. » « J'étais près de mon lit, je parlais à un ami. » Ou « J'étais dans un restaurant. » Ou « Je me trouvais dans un culte à l'église. » C'est très diversifié, n'est-ce pas ? Je veux dire, vous tous, à différents endroits, sous différentes circonstances, afin que les gens ne cherchent pas quelque chose de très mystique. Partagez votre témoignage, tout simplement. J'ai été élevé dans une famille chrétienne. Nous avons 5 prédicateurs dans notre famille. Je suis la 5e génération de prédicateurs. Si vous êtes un garçon dans notre famille, et pas un prédicateur, vous devez vous défiler, vous savez. Donc j'ai été élevé dans l'Église. Mais pourtant, vous pourriez être élevé dans l'Église et ne pas connaître le Seigneur. Je veux dire, vous pouvez être entouré de chrétiens et ne jamais, personnellement, prendre votre propre décision. Et j'étais un petit garçon, alors que mon père était en train de faire une réunion d'évangélisation. J'étais là. Toute ma famille était là. Nous étions dans cette petite ville de l'Indiana où vous êtes, Barbara. Nous étions dans l'Indiana. Et mon père prêchait tous les soirs dans cette église. Et nous passions de grands moments. L'un des hommes dans l'église avait des enfants. Et les enfants m'ont dit, « Viens, allons faire quelque chose aujourd'hui. » J'étais juste un petit garçon d'environ 8 ou 9 ans. Ils nous ont emmenés dehors et ils ont vandalisé l'école et renversé des bacs à sable et des bureaux et des puits d'encre. J'étais avec eux, vous savez. Je voulais être un de ces petits gars, n'est-ce pas ? Lorsque vous avez 9 ans, c'est la chose à faire. Vous étiez logé chez le pasteur, vous voyez. Donc, nous étions logés dans la maison du pasteur et cet homme est venu à la porte et a cogné à la porte pour dire « Certains enfants ont vandalisé l'école et nous allons vérifier le quartier. » Et nous nous demandions si votre fils n'aurait pas été impliqué. Oh non, mon petit Johnny. Et il a fait un grand discours, vous savez, sur le merveilleux petit enfant. Je suis dans le fond de la pièce, et je sens que mes oreilles deviennent de plus en plus rouges. Je n'ai jamais avoué cela à mon père, jusqu'à mes 18 ans. Je veux dire, je ne trouvais pas le courage de le lui dire. Je voulais attendre le plus longtemps possible, jusqu'à ce que je sois plus grand que lui au moins. Mais, vous savez, ce soir-là, je suis allé à la réunion et je me suis assis à l'arrière de la salle. Et j'étais tellement submergé par la culpabilité de ce que j'avais fait que lorsque la réunion était terminée et que mon père quittait l'église, je lui ai dit « Eh papa, pourrais-je te parler ?» Il a dit « Bien sûr, Johnny. » Nous nous sommes assis sur les marches dans le noir en dehors de cette église et je lui ai dit « Je pense que j'ai besoin de Jésus-Christ dans ma vie. » Et ce fut à cause de ma culpabilité. Ainsi, sur les marches, nous avons prié ensemble. Je pense que j'avais environ 8 ou 9 ans. Ce fut le début d'une connaissance personnelle du Christ. Plus tard, dans ma vie, j'ai eu un accident de voiture. J'ai été éjecté de l'auto et j'ai glissé le long de la route en me blessant considérablement. C'est là que j'ai vraiment tout donné au Seigneur. Je pense que c'est une bonne façon de commencer un témoignage, parce que le Christ nous met dans une situation de vie réelle. Donc, quand vous témoignez envers quelqu'un, commencez avec ce que le Christ a fait dans votre propre vie. Je pense que c'est un bon point de départ. Je n'oublierai jamais cet enfant de 5 ans qui a prié une fois dans une salle de prière. Il a dit « Ô Dieu, sauve-moi, car je suis un misérable pécheur. » Vous savez, comment pouvez-vous être misérable à 5 ans? Mais en fait, vous devez, je pense, commencer par là, parce que cela montre que vous êtes une vraie personne, une personne comme toutes les autres. Et puis, quand vous expliquez votre conversion, faites une transition vers les Écritures et laissez-les parler. Et la parole de Dieu est vivante, et quoi, puissante. Donc, vous utilisez la parole de Dieu. Mettez les versets dans le bon ordre. Vous devez montrer aux gens qu'ils sont pécheurs. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1, verset 12. Vous savez, faites-le avec la parole de Dieu. Utilisez l'Écriture. Vous pourriez même les prendre dans Jean 3, l'histoire de Nicodème, où vous voulez peut-être aller à Matthieu 19 et parler du jeune homme riche et pourquoi il ne venait pas au Christ, pourquoi il n'est pas devenu croyant. Utilisez l'Écriture. Et puis mettez l'accent sur la loi. Soulignez la loi de Dieu, la loi brisée de Dieu, afin que les gens se voient comme pécheurs qui ont besoin du salut, ayant infiniment violé le Dieu saint. Vous savez, vous ne pouvez pas prêcher la bonne nouvelle sans commencer par les mauvaises nouvelles. Vous ne pouvez pas prêcher la grâce à moins qu'ils comprennent la loi. Et ils ne comprendront jamais la miséricorde, à moins qu'ils ne comprennent le jugement. Donc vous devez parler de la loi de Dieu. Quand l'épître aux Romains commence, et Romains c'est l'Évangile, n'est-ce pas? L'épître aux Romains, au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, il y a un acte d'accusation de la race humaine. Et puis, quand vous avez suffisamment parlé de l'accusation, vous pouvez lire dans Romains 3. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Je veux dire, personne ne peut dire quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas vous défendre contre la violation de la loi de Dieu dans ce qui vient de l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, vous devez parler de la loi avant de parler de la grâce de Dieu. Maintenant, vous affirmez, après avoir parlé à ce sujet, de la nécessité de se repentir de leurs péchés. Jésus est venu et son message était « Repentez-vous, car le royaume est proche. » Tournez. Le prophète a dit « Faites demi-tour, faites demi-tour. » Et donc, nous voulons parler de cela et de la soumission à l'obéissance à Jésus-Christ. Dites ce que vous avez fait. J'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Romains 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous devez croire les bonnes choses, mais il faut aussi confesser sa seigneurie. Maintenant, je ne crois pas que vous puissiez comprendre tout cela. Vous savez, quand les gens viennent à Christ, je ne pense pas qu'ils comprennent les implications de sa seigneurie. Je ne pense pas qu'ils comprennent toutes les implications de ce que signifie se détourner du péché. Mais je pense qu'il y a une détermination ici. Et je veux vraiment vous dire que je crois que c'est le travail de Dieu. Je ne pense pas qu'une personne normale se détourne elle-même de son péché. Je pense que cela fait partie du travail du salut. Et je ne pense pas qu'une personne en dehors de Christ affirme la seigneurie du Christ, car cela fait partie du travail du salut aussi. Voilà pourquoi Jésus a dit « Avec les hommes, c'est impossible, mais avec Dieu, toutes choses sont possibles. » Vous voyez, les hommes ne vont pas faire demi-tour et les hommes ne vont pas affirmer la seigneurie du Christ. Mais Dieu peut travailler le cœur pour le faire, car c'est nécessaire. Eh bien, nous avons le temps pour une autre question. Une fois que vous avez le privilège de diriger une personne au Seigneur, quelle responsabilité avez-vous dans la vie de cette personne? C'est très important. Maintenant, vous parlez du suivi. Que faites-vous après? Nous avons tous eu l'occasion, peut-être, d'amener quelqu'un à Christ, et il est parti. Nous ne pouvons pas le trouver. Nous ne savons pas où il est. Pourtant, nous avions pensé qu'il était si authentique. Eh bien, cela nous rappelle que nous ne pouvons pas toujours reconnaître le blé de l'ivraie. Mais comment voulez-vous le suivre? Permettez-moi de vous donner juste quelque chose simple, de base, d'accord? Certains éléments de base, et je pense qu'ils se trouvent dans un seul passage, et ce pourrait être utile de le regarder. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 4. Et cela découle de la relation de Paul aux Corinthiens. Maintenant, il dit cela dans 1 Corinthiens 4, verset 15. « C'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » D'accord? Il dit « que je vous ai conduit à Christ, que vous êtes mes enfants spirituels. » Il les a donc amenés à Christ. Maintenant, quelle est sa responsabilité? Il se présente comme celui qui les a amenés à Christ. Et que fait-il? Regardez. Tout d'abord, le verset 14. « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. » C'est la première chose. Je pense que vous devez aimer quelqu'un. Vous devez faire preuve d'une réelle préoccupation pour cette personne. C'est la clé pour assurer le suivi. Elle a besoin de savoir que vous l'aimez. Et qu'est-ce que cela signifie d'aimer quelqu'un? Ressentir de l'émotion à son sujet? Avoir la chair de poule spirituelle? Non. Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a quoi? Il a donné. Et si vous aimez votre frère, 1 Jean 3 dit, si vous dites que vous aimez votre frère et que vous lui fermez votre compassion, vous ne l'aimez pas du tout. Et Jésus a dit dans Jean 13 qu'il voulait que ses disciples aiment comme il avait aimé, et il les avait tout simplement aimés, en leur lavant les pieds sales, répondant à leurs besoins, rendant service, un service sacrificiel qui est l'amour. Et je crois que la meilleure façon de suivre quelqu'un est de démontrer que vous l'aimez vraiment, en donnant un peu de votre temps, vos propres priorités, vos propres initiatives, pour investir dans sa vie. Et c'est là que ça commence. Et Paul dit continuellement aux églises où il évangélisait, « Je désire vous voir, n'est-ce pas? Il me tarde de revenir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Et il dit, « Bien que je vous aime plus et que vous m'aimez moins pour cela, je vais continuer à vous aimer. » Vous voyez, il se donnait à ces gens. Il se présentait à eux. Je veux dire, il était malade, il était près de la mort. C'était Épaphrodite qui était avec lui, dans sa relation avec une autre église. Cela fait partie de l'abandon de soi-même, et l'amour est la clé pour assurer le suivi. Ce que je veux dire, c'est de ne pas leur remettre un tas de livres de suivi, sans leur donner votre vie et votre cœur. Il y a quelques autres éléments à voir dans ce passage. Verset 14. Je vous préviens. Je pense que cela en fait partie aussi, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas élever un enfant en affirmant seulement votre amour pour lui. Vous devez également l'avertir. Continuez à faire que cela, et vous allez avoir un problème. Voilà ce que la Bible appelle un avertissement. C'est avertir en vue du jugement. En d'autres termes, si vous continuez à aller dans cette voie, vous allez avoir des problèmes. Donc, si vous voulez vraiment suivre quelqu'un, vous devez l'avertir pour qu'il ne se trompe pas de chemin. Maintenant, il y a d'autres éléments dans ce passage, et nous devons en parler. Permettez-moi de vous montrer celui-ci. Nous devons être un exemple. Il dit au verset 17, « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Je vais vous envoyer un homme qui est tout comme moi. Vous pouvez le suivre. » Maintenant, Paul dit à plusieurs reprises dans le cas des Corinthiens. Il leur dit dans le 11e chapitre, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis du Christ. » Je pense qu'il est essentiel d'être un exemple. C'est quoi un exemple? Vous mettez votre vie à côté de la leur, n'est-ce pas? Et vous continuez à marcher dans la vie chrétienne et leur faire voir comment vous faites. Et tel est le suivi le plus puissant qui soit. Vous êtes littéralement un contre un pour lui enseigner la vie biblique, lui enseigner un style de vie sanctifié. Voilà comment vous devez les suivre. Il y a d'autres choses, l'enseignement. Il parle à la fin du verset 17 de son enseignement partout dans chaque église. Je pense que le suivi implique la contribution. Elle implique de leur dire la vérité de Dieu. Ils ont besoin de l'entendre. Et puis, dans les versets 18 et 19, il continue à parler du fait que s'ils ne se conforment pas quand ils arrivent, il va venir avec une baguette. Et cela signifie la discipline. Il y a des moments où nous devons discipliner les gens. Comment vous punissez quelqu'un que vous suivez? Je pense que verbalement, vous les affrontez. Vous dites, « Eh, Vous devez arrêter de faire ça. Je veux vous aider à changer ce modèle dans votre vie. Il doit y avoir une volonté de faire face à quelqu'un. Vous dites, eh bien, je ne veux rien dire à ce sujet. Qui suis-je pour dire, j'ai mes propres problèmes? D'accord. Vous enlevez d'abord la poutre de votre œil, puis vous travaillez sur celle de leur œil. Mais vous ne pouvez pas les laisser seuls. Vous n'allez pas les aider si vous ne dites pas ce qui doit être dit. Eh bien, j'espère que ces choses vous donneront une bonne base. Nous avons parlé de qui peut témoigner, et nous avons dit essentiellement que toute personne qui est un chrétien peut témoigner, et doit témoigner, et témoigne, parce qu'il a une relation personnelle avec Jésus-Christ. Nous avons dit que le témoignage est simplement témoigner au monde qui regarde Jésus-Christ, qui est celui qui peut faire ce qu'il dit qu'il peut faire. Nous avons parlé du fait que le témoignage est essentiel et qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix sacrificiel à payer. Nous avons dit que c'est nécessaire parce que nous avons été commandés à le faire et nous sommes équipés pour le faire. Après tout, nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Et puis nous avons parlé de quelques-uns des outils qui le rendent efficace. Et nous avons parlé des méthodes, comment partager notre témoignage et comment se servir de la parole. Et ensuite, nous avons parlé du suivi. Cela fait un petit paquet, et si nous pouvons travailler sur ces choses et se souvenir de ces choses et peut-être peu à peu les mettre en pratique alors que nous communiquons Christ, je crois que Dieu sera honoré par notre façon de témoigner. Partageons ensemble un mot de prière. Merci notre Père pour le grand privilège d'être des ambassadeurs de Jésus-Christ, d'avoir la tâche d'appeler des hommes à lui en devenant ses témoins. Père, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi tu veux faire de nous tes témoins, car nous sommes si fragiles et faibles, et pourtant nous savons que, par la puissance de l'Esprit de Dieu, tu peux nous utiliser. Nous te remercions pour ce privilège. Pour la gloire de Jésus-Christ, nous prions. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.